Bonjour, Marco, compte à rebours. Et oui, ça tombe bien, si vous écoutez la radio, probablement vous l'écoutez, bien, et voilà, Compte à rebours, une émission de contes, une émission d'histoires, de légendes et de mythes aussi, et enfin maintenant, aujourd'hui, voilà la suite des mythes grecs. Nous en étions à la fin de la création du monde, rappelez-vous. Beaucoup de nouveaux venus depuis Chaos, le vide primordial. Mais on ne peut pas dire que ça tourne rond. Les titans et leurs enfants, jamais, hein, les titans et les olympiens, les chronides et les olympiens, Typhon après sème sa zone, une fois que Zeus a gagné, ben c'est Typhon. En réalité, les forces primordiales sont un brin sauvage. Et Zeus, qui est le premier dieu qui voit plus loin que son ombre, il faut bien le reconnaître, parce que Uranos, le ciel, bien à part rester couché sur Gaïa, il ne faisait rien d'autre. Cronos, il songeait avant tout à protéger sa royauté, mais Zeus, lui, il voit plus loin et il entreprend d'amener la lumière, la communication dans ce bazar. Mais ce n'est pas facile, vous allez voir. Les mythes grecs. Cinquième épisode, l'âge d'or. Et résumé des épisodes précédents. Après sa victoire sur Cronos et les autres titans, Zeus doit encore affronter une création de Gaïa très puissante, Typhon. Mais ça y est. Une fois vainqueur, Zeus et les Olympiens vont peut-être pouvoir songer à se détendre. Non, les géants arrivent. Les gigantes. Ça ne finira donc jamais. Qui sont au juste ces géants qui vont entraîner une guerre interminable, la fameuse gigantomachie? Ce sont des êtres qui ne sont ni pleinement humains ni pleinement divins. Ils possèdent un statut intermédiaire. Les géants sont de jeunes guerriers. Ils symbolisent dans l'univers la fonction guerrière, l'ordre militaire face à l'ordre royal de Zeus. Il s'assimile un peu aux 100 bras, vous vous rappelez, les hécatonchires, qui comportent aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, des aspects de puissance guerrière, de force, de violence, qui entrent en jeu systématiquement. On a vu que les 100 bras sont passés du côté de Zeus, qu'ils se soumettent à lui et acceptent son autorité. Mais les géants, qui représentent la force des armes, la violence à l'état pur, la vigueur du corps, la jeunesse physique, eh bien, en viennent à se demander pourquoi ils ne détiendraient pas, eux, le pouvoir suprême. C'est la raison principale de la guerre des géants. Cette guerre est très périlleuse, car c'est de la terre qu'ils sont nés, eux aussi. Les géants, on les voit naître directement de la terre, sous l'espèce de combattants déjà adultes. Ce ne sont pas des bambins ni de petits garçons, pas davantage des vieillards, sitôt sortis de terre. Ils se présentent sous l'aspect de jeunes guerriers accomplis. Ils viennent au monde tout en armes, avec le casque, la tenue hoplitique, le javelot à une main, le glaive à l'autre. Et aussitôt nés, ils se battent les uns contre les autres. Puis, quand même, ils finissent par s'unir et entrer en guerre avec les dieux. Dans cette lutte, souvent décrite et représentée, on voit les Olympiens intervenir contre les géants. Et là, chacun s'y met dans les Olympiens. On n'a pas encore vu qui sont exactement les autres dieux. On a parlé surtout de Zeus, on a parlé un peu de Héra, sa femme, mais il y a aussi Athéna, Apollon, Dionysos, Artémis. On en parlera plus tard en détail. Mais pour l'heure, ils se battent avec leurs propres armes. Chacun, mais Gaïa, la Terre, explique à Zeus que les dieux n'arriveront pas à vaincre leurs adversaires. En effet, si les Olympiens commettent d'importants dégâts chez leurs adversaires, ils ne parviennent pourtant pas à les anéantir. En dépit des blessures et des pertes qui leur sont infligées, les géants sont toujours d'attaque. C'est normal, la puissance des géants est celle d'une classe d'âge toujours renouvelée. Les jeunes à l'orée de la vie militaire. Les dieux de l'Olympe ont besoin d'une créature qui ne soit pas divine pour l'emporter. Zeus se trouve à nouveau contraint de s'appuyer sur un simple mortel pour vaincre les géants. Sans doute a-t-il besoin d'un mortel parce que justement, ces jeunes géants qui n'ont jamais été des enfants et qui ne seront jamais des vieillards ont l'apparence d'être humains. Ils combattent les dieux sans que ceux-ci puissent les réduire à néant. Ils sont à mi-chemin entre la mortalité et l'immortalité. Leur statut est aussi indécis que celui du jeune homme dans la fleur de sa jeunesse. Il n'est pas encore un homme, mais il n'est déjà plus un enfant. Tels sont les géants. Aussi, pour mener à bien leur action, les Olympiens s'assurent l'appui d'Héraclès. Celui-ci n'est pas encore un dieu, il n'est pas monté à l'Olympe, il est simplement le fils de l'union de Zeus et d'une mortelle, Alcmène. Il est lui-même mortel. C'est Héraclès qui va exercer des ravages sur la race, la tribu des géants, le peuple des géants. Or, malgré ces ravages, la lutte n'est pas réglée. Une fois encore, Gaïa joue un rôle ambigu, car elle ne veut pas que ces créatures qu'elle fait naître d'elle-même, toute armée, soient anéanties. Elle part donc à la recherche d'une herbe, d'une plante d'immortalité qui pousse la nuit. Elle se propose de la cueillir dès l'aube pour l'offrir aux géants afin qu'ils deviennent immortels. Elle souhaite que les Olympiens tiennent compte de cette jeunesse rebelle, composent avec elle et ne soient plus en mesure de l'anéantir. Mais Zeus, prévenu du dessein de Gaïa, parvient à la devancer, juste avant que l'aube ne surgisse, que la lumière n'envahisse le sol, que la plante ne soit trop clairement visible. Il l'accueille. Désormais, il n'y a plus sur Terre un seul fragment de cette plante d'immortalité. Les géants ne pourront donc pas l'avaler. Ils vont immanquablement périr. Au terme de la victoire sur les géants, on peut enfin dire que le règne de Zeus est véritablement assuré. Les dieux qui ont combattu à ses côtés disposent à tout jamais des privilèges dont ils ont été les bénéficiaires. À eux le ciel, un lieu qui ne connaît que la lumière, la pure lumière. Dans le bas du monde, c'est la nuit, les ténèbres, c'est le Tartare ou Hadès. Les dieux y sont vaincus, les monstres maîtrisés, les géants réduits à l'immobilité, liés ou endormis comme Cronos. Ils sont en quelque sorte hors-jeu. Le monde, outre les dieux, contient les animaux et les hommes. Ces créatures connaissent à la fois la nuit et le jour, le bien et le mal, la vie et la mort. Leur vie est tissée à la mort, comme les nourritures périssables qui les ingurgitent. En observant le déroulement de cette histoire, on peut penser ceci. Pour qu'il existe un monde différencié, avec ses hiérarchies et son organisation, il a fallu un premier acte de rébellion, celui qu'a accompli Cronos quand il a châtré Uranos. À ce moment-là, Uranos a lancé une malédiction contre ses enfants, une imprécation qui les menaçait d'une faute à payer, d'une tisis. Ainsi, le cours du temps est un cours heurté, qui laisse place au mal et à la vengeance, aux irinies qui font expier les fautes, aux caires. Ce sont les gouttes de sang tombées du membre châtré d'Uranos qui ont engendré les forces de violence sur toute l'étendue du monde. Mais les choses sont plus compliquées, plus ambiguës aussi. Entre les forces nocturnes qui investissent l'univers en raison du premier acte fondateur d'un cosmos organisé, la mutilation d'Uranos, et les forces d'accord, il y a une sorte de lien. D'un côté, les Irinies, les géants et les nymphes, et de l'autre côté, les nymphes de la guerre, bien sûr, et de l'autre côté, Aphrodite. Chaos a engendré nuit, et nuit a donné naissance à toutes les forces du mal. Ces forces mauvaises, ce sont d'abord la mort, les parcs, les caires, le meurtre, la tuerie, le carnage. Ce sont aussi tous les maux, la détresse, la faim, la fatigue, la lutte, la vieillesse. Parmi les malédictions qui pèsent sur l'univers, il faut compter aussi Apaté, la tromperie, et Philotès, l'union amoureuse. C'est la nuit qui les a enfantés, à côté de meurtre et tuerie. Mais si nous trouvons toutes ces divinités, ou en tout cas ces influences noires qui se précipitent sur l'univers, et qui, à la place de l'espace harmonieux, commencent à créer des lieux de terreur, de crime, de fausseté, si on trouve ça, il y a aussi, du côté de la descendance d'Aphrodite, des forces positives, mais aussi des forces qui semblent mauvaises. Bien sûr, il y a Eros et Hyméros, tendre amour et désir, de ce côté tout va bien, mais il y a aussi les menteries ou les tromperies, ex-pataille, les pièges de séduction que recèlent les babiles des jeunes filles, et de nouveau, la tendresse amoureuse Philotès. Dans la mouvance des forces d'union, d'accord, de douceur que patronne Aphrodite, et dans la descendance d'une puissance nocturne engendrant tous les malheurs possibles, il y a des croisements, des recoupements, des duplications. Parmi les enfants de nuit figurent les propos séducteurs et l'union amoureuse, comme dans la suite d'Aphrodite, les sourires charmants des jeunes filles voisines avec les mensonges dans l'union amoureuse. Cet univers résulte perpétuellement d'un mélange des contraires. En mobilisant la colère des puissances vengeresses, nuit contribue à rétablir la clarté d'un ordre que les fautes avaient obscurci. De son côté, Aphrodite lumineuse, l'Aphrodite d'or, se double d'une Aphrodite noire, Mélénis, d'une Aphrodite nocturne, ténébreuse, rôdissant ses ruses dans l'obscurité. Zeus, dans la mise en ordre de l'univers, prend bien soin d'écarter du monde divin la nuit, l'obscurité, le conflit. Il crée un règne où, si les dieux se disputent, leur querelle ne peut déboucher sur un conflit ouvert. Il a chassé la guerre du territoire divin et l'a envoyé chez les hommes. Toutes les puissances mauvaises que Zeus a expulsées du monde olympien formeront le tissu quotidien de l'existence humaine. Il a demandé à Poséidon de construire une triple muraille d'airain pour que la porte du Tartare demeure fermée et que la nuit et les puissances du mal ne puissent plus monter jusqu'au ciel. Certes, elles existent dans le monde, mais Zeus a pris ses précautions. Si une querelle s'élève entre les dieux, qui pourrait dégénérer, les voici aussitôt tous convoqués à un vaste festin. Est également convoqué Styx, qui accourt avec une aiguillère d'or contenant l'eau du fleuve des enfers. Les deux puissances divines, qui sont entrées en conflit, prennent cette aiguillère, versent de l'eau à terre, font une libation, en boivent aussi et jurent sous serment qu'elles ne sont pas responsables de la querelle, que leur cause est juste. Naturellement, l'une des deux puissances divines ment. Celle-là, à peine a-t-elle absorbé l'eau divine, qu'elle tombe dans le coma, dans une espèce de léthargie totale. Elle se trouve dans un état analogue à celui des dieux qui ont été vaincus, comme Typhon ou les titans. Elle n'a plus ni souffle, ni ardeur, ni vitalité. Elle n'est pas morte, puisque les dieux sont immortels, mais elle a perdu tout ce qui relève de son caractère divin. Elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus exercer son pouvoir, elle est hors jeu. Elle se trouve d'une certaine façon hors cosmos, enclose dans une léthargie qui l'écarte de l'existence divine. Elle demeure dans cet état un très long temps, que les Grecs appellent une grande année. Quand elle s'éveille de son coma, elle n'a toujours pas le droit de participer au banquet, ni de boire le nectar et l'ambroisie. Cette puissance divine n'est ni mortelle, ni franchement immortelle. Elle se trouve dans une situation semblable à celle des titans, des géants ou de typhons. Elle est exclue. Autrement dit, dans ce monde divin, multiple, divers, Zeus a prévu les dangers d'un conflit. Veillant au grain, il a institué non seulement un ordre politique, mais aussi un ordre quasiment juridique, pour que dès qu'une querelle s'élève, elle ne risque pas d'ébranler les colonnes du monde. Les divinités fautives sont expulsées de l'Olympe jusqu'à ce qu'elles aient purgé leur peine. Ensuite, elles se réveillent de leur léthargie, mais elles n'ont pas encore le droit au nectar ni à l'ambroisie. Elles doivent patienter pendant 10 fois la durée de leur peine. C'est l'ordre chez les dieux, mais pas chez les hommes. Typhon est donc vaincu, anéanti, par tout ce sous quoi Zeus l'a enseveli. Peut-être sa dépouille est-elle expédiée là où déjà les titans sont bloqués, c'est-à-dire dans le Tartare, ce qui serait très normal, puisque Typhon est le fils du Tartare. Peut-être aussi va-t-il rester gisant sous ces énormes blocs montagneux jetés sur lui, en particulier sous l'Etna. Typhon se trouve enserré dans les racines de l'Etna, ligoté sous le volcan qui, de temps en temps, laisse échapper des fumées. On voit donc que la victoire de Zeus ne met pas radicalement fin à ce que manifeste Typhon comme puissance chaotique dans le cosmos. Les Olympiens l'ont écarté de leur sphère divine, mais l'ont expédié, lui aussi, chez les hommes, où il rejoint la discorde, la guerre et la mort. Si les dieux ont expulsé de leur domaine tout ce qui appartient au monde du primordial et du désordre, ils ne l'ont pas annihilé, mais seulement éloigné d'eux. C'est maintenant chez les hommes que Typhon s'effile, avec une violence brute qui les laisse entièrement démunis. Il est un mal sans remède, contre lequel, pour reprendre la formule des Grecs, il n'y a aucun recours. Zeus occupe donc le trône de l'univers. Le monde est désormais ordonné, à peu près calme. Les dieux se sont battus, certains d'entre eux ont triomphé. Tout ce qu'il y avait de mauvais dans le ciel éthéré a été chassé, soit bouclé dans le Tartare, soit expédié sur terre, chez les mortels. Mais, justement, les mortels, qui sont-ils au juste? On n'en a pas encore parlé, et on ne va pas en parler cette fois. Leur origine, tout ce qui y est arrivé, on en parlera plus tard, mais on va parler des hommes quand même, parce qu'il y a une espèce de mythe dans le mythe, un mythe de l'âge d'or. L'histoire commence non pas tout à fait à l'origine du monde, mais au moment où Zeus, justement, est déjà roi, c'est-à-dire en ce temps où le monde divin s'est stabilisé. Eh bien, les dieux ne vivent pas uniquement sur l'Olympe. Ils partagent avec les humains des morceaux de terre, c'est ce que l'on raconte. En particulier, il est un endroit en Grèce, près de Corinthe, une plaine à Méconée, où Dieu et homme vivent ensemble, mêlés. Ils participent au même repas, ils s'assoient aux mêmes tables, ils festoient ensemble. Ce qui signifie que chez les hommes et les dieux mélangés, chaque jour est un jour de fête, un jour de bonheur. On mange, on boit, on se réjouit. On écoute les muses chanter la gloire des dieux, les aventures des dieux. Bref, tout est pour le mieux. La plaine de Méconée est une terre de richesse et d'abondance. Tout y pousse, spontanément. Suivant le proverbe, il suffit d'avoir un lopin de terre dans ce val pour que la richesse survienne, puisqu'il n'est pas soumis aux aléas du mauvais temps ni des saisons. Âge d'or, quand les dieux et les hommes n'étaient pas encore séparés. Âge d'or, qu'on appelle aussi parfois le temps de Chronos, temps antérieur au temps. C'est la paix, un temps où les hommes ont leur place. Comment vivent-ils ? Non seulement comme on le voit en s'attablant au même festin que les dieux, mais aussi sans connaître aucun des maux qui accablent aujourd'hui la race des mortels, des éphémères, de ceux qui vivent au jour le jour sans savoir ce que sera demain, ni éprouver de vraie continuité avec ce qui s'est passé hier, qui n'arrêtent pas de changer, naissent, grandir, deviennent forts, s'affaiblissent, puis meurent. Dans ce temps-là, les hommes demeuraient jeunes, les bras et les jambes toujours semblables à ce qu'ils étaient depuis le début. Pour eux, pas de naissance au sens propre. Peut-être surgissaient-ils de terre, peut-être Gaïa, terre-mère, les avait-elle enfantés comme elle a enfanté aussi les dieux. Peut-être plus simplement, sans que soit posée la question de leur origine, ils étaient là, mais les odieux comme les dieux. En ce temps-là, donc, toujours jeunes, les hommes ne connaissaient pas la naissance ni la mort. Ils n'étaient pas soumis au temps qui use les forces, qui fait vieillir. Au bout de centaines, peut-être même de myriades d'années, toujours semblables à ce qu'ils étaient dans la fleur de l'âge, ils s'endormaient et disparaissaient comme ils étaient apparus. Ils n'étaient plus là. Mais ce n'était pas vraiment la mort. Il n'y avait pas davantage de travail, ni de maladie, ni de souffrance. À Mekone, toutes les nourritures, tous les biens étaient à leur disposition. Chaque matin, une table du soleil attend, où on trouve le boire et le manger, tout servi. Non seulement les nourritures, les viandes sont là, toujours prêtes, les blés poussent sans être cultivés, mais de plus les mets se présentent déjà cuits. Quel monde rêvé ! La nature offre spontanément, naturellement, tous les biens de la vie domestique la plus raffinée, la plus civilisée. C'est ainsi que vivent les hommes en ces temps lointains. Ils connaissent le bonheur. Les femmes n'ont pas encore été créées. Il y a du féminin, il y a des déesses, mais pas de femmes mortelles. Les humains sont uniquement mâles. Pas plus qu'ils ne connaissent les maladies, la vieillesse, la mort et le travail, ils ne connaissent l'union avec les femmes. À Mekone, les dieux et les hommes vivent ensemble, ils sont réunis. Mais le moment viendra de leur séparation. Et c'est ce que nous verrons sans doute la prochaine fois. Il va y avoir une répartition et c'est Zeus qui va s'en charger. Compte à rebours, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. On était bien à Mekone, à cet âge d'or grec. En tout cas, on y reviendra en Grèce, mais peut-être aussi on partira ailleurs, on fera d'autres pauses, parce que Compte à rebours, c'est une émission de contes de toutes sortes et on a besoin aussi de temps en temps de changer d'air. Je vous dis donc à la semaine prochaine. C'était Marco, Compte à rebours. Ciao. Bye.